Le lisible dans l'illisible, François Stark Mornington s'entretient avec Michael Sorn. Michael Sorn, bonjour.
Bonjour.
Michael Sorn, vous êtes artiste peintre et comme vous tenez à le préciser, vous vous inscrivez dans l'expressionnisme abstrait. Le public a pris connaissance de votre travail dans différents lieux comme le Grotto Club à Londres, la galerie Le Rouge Vif et la galerie 43 dans le 13e arrondissement à Paris où une exposition intitulée « Brise marine » vous a été consacrée du 11 au 21 septembre 2014. À la question « Qu'est-ce que notre monde ?», vous y répondez en déployant les séries de toiles nommées « Bing Bang », La guerre, aile du désir, trace, temps mêlé, brise marine, où vous apportez des éléments de réponse à « Qu'est-ce qui, dans le monde, devient mon monde ?» Vous y montrez que le monde, loin d'être une totalité, ne peut pas être le reflet d'une successivité narrative. Le monde, pour vous, est discontinuité. Vous proposez des modalisations de l'inattendu comme autant des faits sur le sujet. À partir de la béance de l'inaugural, vous mettez en tension le désir pris dans le glissement métonymique ou sur fond d'unité perdue, vous faites surgir la douleur de vivre, nouée à la perte, à la séparation, à la mort. C'est là, par la poésie, que vous tentez cependant d'apporter une réponse autre. Du chaos, vous faites émerger une trace, écriture de l'innommable, du non maîtrisable du réel, comme espace topographique du patou visible, arraché à l'invisible. Il y a dans votre travail un savoir qui semble impliquer une énigme, celle de la rencontre d'un espace où le singulier est convoqué. La mise en série de vos toiles invite à ouvrir l'œil sur le rapport à un monde traversé par un mouvement acéphale. La représentation de l'imprévisible et de son interprétation sont ici désignées comme le corrélat de la promesse de ce qui est à venir en définissant les contours des effets de notre modernité. C'est à quoi vous invitez le spectateur à regarder là où, par un tour de passe-passe, vous le conviez dans un au-delà de la fascination. Vous inscrivez votre art comme un savoir-y-faire avec la capture du dévoilement du figurable. Est-ce pour rendre compte de ce lieu pris entre la rupture du visible et du vide, voire du dissible ? Votre présentification du surgissement de la fulgurance du regard interroge les coordonnées du visible nouées à l'irreprésentable. Point limite de ce qui tente de s'exprimer, mais ne cesse pas de s'écrire. Est-ce pour rendre compte de la relation ambiguë que l'homme entretient avec les affres du réel ? Le tableau atteint son but en convoquant le regardeur à regarder ce qu'il voit au-delà de l'œuvre elle-même, en l'impliquant dans la découverte de l'invisible rendu visible. Alors, Michael Sorn, pourquoi la peinture ? Comment vous est venue cette envie de peindre ?
Oui, c'est une vieille affaire, ça. Peindre, c'était quelque chose à quoi je m'employais adolescent. Je travaillais avec des artistes, j'ai pris des cours. Je savais que j'avais, en tout cas pour partie, envie d'orienter ma vie du côté de la vie artistique. D'abord, j'ai été comédien pendant quelques années, une quinzaine d'années, et aussi du côté de la peinture. Alors j'aimais beaucoup aller voir de la peinture, j'ai toujours aimé ça de tout temps. De là à passer le pas, le théâtre m'a permis de le faire, parce que j'ai été amené à faire des décors de théâtre. D'abord dans la troupe de théâtre à laquelle j'appartenais comme comédien, et puis aussi au Théâtre du Tertre, où Fabienne May m'avait demandé de travailler pour elle et de faire des décors pendant 2 ans, ce que j'ai fait. J'ai fait un autre choix d'orientation de ma vie, à savoir que j'ai fait des études, je suis devenu médecin, puis psychiatre. Et voilà, j'ai passé les concours hospitaliers et donc orienté ma vie différemment, même si pendant mon parcours professionnel, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec les artistes. Dans le service dans lequel je travaillais, le travail avec les artistes était quotidien. Nous travaillions avec 6 artistes en permanence. Donc, je n'ai jamais perdu de vue ça. Je dessinais, je peignais pendant mes vacances, etc. Ça ne m'a jamais quitté, mais ça n'était pas mon activité professionnelle. En 95, je me suis décidé à m'y remettre vraiment et à mettre ça au travail, ce que j'ai fait, et depuis, je n'ai pas arrêté. Et d'autant moins que depuis 2 ans je suis à la retraite et que donc là je peux peindre à temps plein. Et j'ai choisi d'ailleurs de le faire, non pas comme une activité qui accompagnerait ma retraite pour que ce soit agréable et que ça passe le temps, mais de le faire comme artiste professionnel. J'ai fait le pas de m'inscrire là où on doit s'inscrire pour être reconnu comme artiste professionnel, ce que je viens de faire à l'occasion de l'exposition à la Galerie 43. Et j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt votre propos liminaire et je me demandais effectivement si je faisais bien tout ça dont vous parliez. Et je crois que ce que je me répondais, c'était qu'en fait, ce que je fais, c'est que j'essaye de peindre.
Oui.
Voilà, c'est ça qui m'importe, c'est de me colter à cette question qui est celle de la peinture. Alors, évidemment, avec cette question-là, on arrive une foule d'autres, une myriade, une multitude, comme ça, dont peut-être celle qui est le plus d'actualité pour moi en ce moment, c'est celle de la figuration et de l'abstraction.
Alors justement, oui, j'ai quelques questions à ce propos. Quels sont les peintres ou les artistes qui vous ont inspiré avant d'aborder plus cette thématique de l'abstraction?
Le choc artistique que j'ai eu, enfin la rencontre la plus fulgurante que j'ai eue avec la peinture, c'est à 13 ans. Quelque chose comme ça, en tout cas, c'est la rétrospective Picasso au Grand Palais. Ça m'a absolument émerveillé, subjugué, interrogé. Voilà, j'ai rencontré là quelque chose dont j'avais aucune idée et qui a éclairé ma vie, je crois. Et ça ne m'a jamais lâché depuis. C'est un peintre important pour moi, mais je ne dirais pas que c'est celui qui oriente ma peinture de façon plus contemporaine. Dubuffet est quelqu'un qui est vraiment important pour moi dans ce travail de la matière et ce que j'ai essayé de faire dans certaines séries comme Big Bang par exemple, c'est-à-dire beaucoup travailler la matière, les objets sur la toile, Fautrier, puis Basquiat. Ça a été vraiment important de voir, oui, là aussi, cette fulgurance du trait, de cette autorisation qu'il se donne de peindre, quoi. Voilà. Et la dernière en date, et qui a été là, qui m'a accompagné dans un virage dans ma manière de peindre, etc., c'est John Mitchell. Vous disiez que je faisais référence à mon travail comme du côté de l'expressionnisme abstrait. Depuis quelque temps, je me laisse beaucoup travailler par cette question, parce que je ne suis pas sûr que je me retrouve dans ces définitions très pointues. Expressionnisme abstrait, abstraction lyrique, c'est la même chose, ça n'est pas la même chose, est-ce qu'on sait? Quel lien y a-t-il entre le dripping de Pollock et la limite entre abstraction et figuration chez Nicolas de Staël ou même chez John Mitchell? Peut-être ce qu'il y a de commun entre John Mitchell et Pollock, c'est le all over, c'est-à-dire de recouvrir la toile et aussi les grands formats. Mais chez John Mitchell, par exemple, une des séries de John Mitchell qui m'ont vraiment fait changer, quoi, dans mon approche du fait de peindre, c'est La Grande Vallée. La Grande Vallée, c'est une série de tableaux, 25, je crois, qu'elle a peint ça, non pas du tout en regardant une grande vallée, mais en écoutant une de ses grandes amies lui raconter un souvenir d'enfance où, en Bretagne, elle et les gamins du voisinage descendaient dans un vallon qu'il y avait derrière la maison. Et elle lui racontait comment c'était les oiseaux, les insectes, la lumière, les feuilles, etc. Elle a raconté ça à John Mitchell, qui en a fait 25 tableaux, dont certains de 10 mètres carrés, quoi. Pas tout à fait rien. Il y avait un triptyque d'elle absolument magnifique à Beaubourg. Voilà. Elle est sûrement celle qui a le plus orienté mon travail récemment, certain.